Donc le problème de l'emphysème, c'est celui de la distension thoracique. Et cette distension thoracique, on le sait, est la cause de la dyspnée de ces patients. L'idée donc générale, c'est de réduire le volume pulmonaire du lobe le plus atteint quand l'emphysème est hétérogène, et en réduisant ce volume, d'améliorer la mécanique ventilatoire et donc améliorer la qualité de vie des patients et leur capacité à l'exercice. C'est les chirurgiens qui, les premiers, ont fait ces hypothèses, et ils ont fait une grande étude, qui est l'étude de référence, qui est l'étude NET, qui a montré que pour la chirurgie, il y avait un sous-groupe de patients qui étaient bénéficiaires de cette chirurgie de réduction de volume. C'était des patients qui présentaient un emphysème hétérogène dans les lobes supérieurs et chez des patients qui avaient des capacités d'exercice réduites à moins de 40 watts. C'est le petit carré vert. Pour tous les autres patients, on considérait que la chirurgie était plus négative que positive. Donc évidemment, sur le plan endoscopique, comme vous l'avez vu tout à l'heure, toute une série de choses ont été essayées, soit des techniques pour réduire le flux ventilatoire, pour bloquer les bronches avec des petits bouchons en silicone qu'on appelle des spigotes, des valves unidirectionnelles, créer des néobronches, et puis des techniques de compression, de rétraction de volume en utilisant, on a vu, les coils, les systèmes de colle ou les systèmes de vapeur. Alors d'emblée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, certaines méthodes sont pour l'instant en stand-by, pas vraiment totalement abandonnées, mais pour lesquelles les données permettent de les laisser de côté pour l'instant, qui sont les spigotes, la valve aspiration, la fenestration pulmonaire et le système Airis, donc de glu. Il reste trois systèmes possibles, soit le système de la pose des valves. Le système donc permet à l'air de sortir du lobe que l'on a bloqué, mais pas d'y rentrer, et donc va entraîner progressivement la telectasie du lobe, on va le voir dans certaines circonstances. Le deuxième système, c'est le système des spires, dont le but est finalement de renforcer le recul élastique du poumon et de renforcer la rétraction en remplaçant le tissu élastique n'existant pas par ces coils. Et le dernier système qui est celui de cuire le lobe que l'on veut détruire pour entraîner une réaction inflammatoire et sa rétraction. Donc vous avez vu tout à l'heure le système de ces valves. Dans la situation idéale, chez un patient emphysémateux, on va voir si ici on met des valves dans le lobe supérieur, on va avoir la rétraction du lobe supérieur et une amélioration très nette de la distance de marche des patients. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'étude vente était statistiquement positive mais cliniquement non pertinente, et l'analyse des sous-groupes a montré que les patients qui s'amélioraient le plus, c'était les patients qui avaient l'emphysème le plus hétérogène et pour lequel on avait réussi l'exclusion lobaire, c'est la dernière barre à droite, avec des scissures complètes. Et on va voir un peu plus loin pourquoi l'absence de scissures complètes perturbe le fonctionnement du système. En fait, on a redécouvert que ces scissures complètes, ce n'était pas si fréquent que ça. Et vous voyez par exemple que la petite scissure à droite est incomplète chez 85% des patients normaux, emphysémateux ou pas emphysémateux. Et on a là effectivement une scissure incomplète qui va donc entraîner la reventilation du lobe que l'on a occlus par le lobe adjacent, empêchant la telectasie de ce lobe. Donc l'analyse très précise des scissures par l'étude scanographique est utile pour reconnaître la ventilation collatérale. Et une autre manière de le faire est le système Chartis. Donc Hervé Malle en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. L'idée est de gonfler un ballon dans la bronche que l'on veut occlure et d'analyser le débit d'air qui sort du lobe que l'on a occlu. Si le lobe est effectivement occlu, on voit disparaître progressivement ici le flux venant du lobe atteint, alors que si le lobe, s'il y a une ventilation collatérale, vous voyez qu'on maintient un débit d'air provenant de derrière le ballon, ce qui veut dire qu'en fait il y a une réalimentation en air par rapport derrière l'occlusion du ballon. Alors quand on a analysé le bénéfice des deux techniques, on s'aperçoit que leur sensibilité est pas tout à fait similaire. La sensibilité du système Chartis est meilleure que l'analyse des scissures. La spécificité, par contre, du système Chartis est inférieure et la précision est intéressante dans les deux systèmes. On a vu que quand on combine les deux techniques de sélection, c'est là que l'on a le meilleur des résultats. Je montre ces études parce que Hervé ne les a pas montrées, juste pour dire que c'est encore sur des petits nombres de patients, mais il semble que les patients qui aient eu des valves et qui aient eu une réduction effective de volume ont une espérance de vie supérieure à ceux qui n'en ont pas eu. Le système de vapeur, donc plus sur le plan technique, consiste donc à mettre dans le lobe ou dans le segment que l'on veut détruire de la vapeur à 100 degrés en protégeant le reste du poumon par un ballon d'étanchéité qui évite évidemment que cette vapeur aille dans d'autres lobes. La quantité d'énergie délivrée est extrêmement précise. Vous voyez que c'est 10 calories par gramme de tissu. Et on va obtenir une réaction inflammatoire de ce poumon, puis une sclérose de ce poumon, avec ici donc progressivement la rétraction du lobe, et vous voyez l'expansion compensatrice du poumon opposé. J'aime bien cette image qui est sur un poumon de mouton, où on voit la réduction de volume ici du lobe supérieur droit sur ce mouton par rapport au gauche, qui vous montre l'efficacité du système. Revenons donc à nos spires. Le principe, c'est de déplier un ressort à l'intérieur de la bronche. Ce ressort va rétracter cette bronche et entraîner la réduction du volume pulmonaire en attirant le parenchyme pulmonaire adjacent à la bronche en question. On a vu qu'il y a des situations qui ne sont pas bonnes pour mettre en place ces spires, des grosses bulles d'emphysème, des bronchiectasies, et puis évidemment d'autres pathologies, dont la suspicion de cancer qu'on va quelquefois découvrir chez ces patients emphysémateux, et ici des incidentalomes, par exemple ici un anévrisme de l'aorte. On se rend compte maintenant que pour que la méthode soit efficace, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de parenchyme pulmonaire, puisqu'il faut quand même des liens entre la bronche et le poumon pour entraîner la rétraction. On imagine que dans une situation comme celle-ci, où il n'y a plus de parenchyme pulmonaire, la spire va s'enrouler dans le vide et finalement ne pas avoir l'effet escompté. Donc ces situations-là, qu'on appelle un grade 5 au niveau de l'emphysème, n'est pas une bonne indication. Sur le plan pratique, l'aspire, qui est donc un alliage de nitinol et qui a une mémoire de forme, qui est donc cette structure qui fait entre 10 et 15 cm de long déplié, se présente dans cette cartouche ici, et elle va être prise par une pince et rentrée dans ce système qui va la maintenir dépliée. Et ensuite, on va la pousser à l'intérieur du canal opérateur de l'endoscope par un cathéter dédié. Donc l'examen se fait sous anesthésie générale avec une intubation ou un masque laryngé. On utilise un endoscope à gros canal opérateur. On fait un lobe par procédure. On met généralement 10 à 12 cols, de 100 à 125 mm. En France, on n'a pas mis de 150, et la durée est entre 30 et 60 minutes. L'idéal est de mettre ces cols un petit peu en couronne dans la partie médiane du poumon, en évitant la zone périphérique, parce qu'il y a des risques de pneumothorax. Et cette zone-là est la meilleure parce que les bronches sont suffisamment petites pour être flexibles sous l'effet des cols et donc attirer le poumon périphérique. Alors, sur le plan technique, on a d'abord un guide que l'on va pousser jusqu'à la paroi thoracique, puis ensuite le retirer de 3 à 4 cm, pousser le cathéter, et vous voyez que sur le cathéter, il y a des marques qui nous donnent la longueur de la spire à poser. Quand il y a deux marques, on met un col de 100 mm, quand il y a trois marques, on met un col de 125 mm. Ici, vous avez... excusez-moi, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà, donc vous avez vu ça. Et vous avez en haut donc le cathéter que l'on met d'abord en place, puis on fait coulisser dessus le cathéter sur le guide. Ensuite, on enlève le guide et on monte à sa place la spire. Donc ça se passe de la façon ici. On met d'abord en place ici le guide. Sur le guide, on fait coulisser le cathéter. Ici, l'extrémité du cathéter est là pour l'instant. Ensuite, on laisse le cathéter en place. Son extrémité est visible. Et on va monter le coils à l'intérieur. Vous le voyez ici arriver. Quand il sort du cathéter, il va s'enrouler et être largué en poussant la pince. Ensuite, on va en mettre un deuxième, puis un troisième, ainsi de suite. Voilà, je vais passer un peu vite. Voilà, pour aller mettre l'ensemble des spires. Alors, il n'y a pas de conseil sur la couverture antibiotique ou la couverture corticoïde. Vous voyez que, en fonction de la littérature, il y a plusieurs essais. Dans l'étude Revolens, on faisait simplement une injection d'amoxicilline acide clavulanique au début de la procédure, sans couverture antibiotique au-delà. Et il y a des études qui mettent en place des corticoïdes jusqu'à, vous voyez, 6 ou 7 jours après la pose. Quelques analyses de Revolens que l'on peut avoir avec des résultats à long terme, puisqu'il y avait une question tout à l'heure, puisque l'étude continue, bien sûr, et je peux vous donner des résultats jusqu'à 2 ans. Vous voyez, un de mes patients, donc, il a eu une première procédure avec la flèche rouge, puis la deuxième. C'est un patient qui avait une distension thoracique importante, un volume résiduel à environ 250% des valeurs normales. Et vous voyez, pas d'influence majeure, sauf sur la distance de marche en 6 minutes, qui s'est très améliorée à 6 mois, mais qui ensuite a fléchi pour reprendre les valeurs de base à 1 an et à 2 ans. Quand on regarde ce qui se passait au niveau du scanner du patient, vous voyez que dans certains territoires, il y a eu de la condensation, c'est apparu plus blanc, avec la visualisation ici des spires présentes et des zones ici de condensation autour des spires. Par contre, dans d'autres secteurs du poumon, on a une spire qui n'a pas eu manifestement d'influence sur le parenchyme pulmonaire, pas plus que celle qui est par exemple ici, ce qui peut expliquer un résultat modeste. Voici un cas beaucoup plus franchement positif et on va comprendre rapidement pourquoi. C'est un patient qui était en groupe contrôle, donc pendant un an, il n'a pas eu de traitement. Et puis ensuite, il a eu le traitement ici. Et vous voyez que son volume résiduel s'est effondré et que sa distance de marche, je ne sais pas si vous voyez bien le chiffre, mais s'est amélioré de façon extrêmement spectaculaire pratiquement en doublant sa distance de marche après la pose des spires. L'explication est celle-ci. Vous voyez initialement la radiographie pulmonaire de ce patient. Ici, la radiographie, au moment où on a mis les spires des deux côtés, dans les lobes supérieurs, et ce qui s'est passé, c'est une réaction inflammatoire brutale, qui a entraîné d'ailleurs une hospitalisation relativement prolongée de un mois du patient, avec une rétraction, on dirait une vieille tuberculose ou une vieille sarcoïdose, une rétraction du poumon autour des spires. Vous voyez ici cette condensation pneumonique, pneumopathique, c'est probablement une pneumonie organisée avec les spires à l'intérieur et une réduction de volume majeure qui a entraîné l'amélioration fonctionnelle extrêmement importante. Un autre cas complètement négatif où là, vous voyez la mise en place des spires et pas d'amélioration au niveau de la distance de marche, avec sur le plan scanographique juste cette petite réaction-là autour des spires qui est très située de ce niveau-là, alors que partout ailleurs, la présence des spires n'avait eu aucun impact. Finalement, comme la patiente n'allait pas bien, elle a été transplantée monopulmonaire. Vous avez la radio post-transplantation, transplantée à droite. Il y a toujours les spires à gauche. Et évidemment, on a eu une amélioration fonctionnelle extrêmement importante. Actuellement, il y a un algorithme de décision pour savoir quelle technique utiliser. En gros, chez des patients qui ont ces critères, non-fumeurs, réhabilités, une distension thoracique et un VMS entre 20 et 50%. Une fois qu'on a exclu ces patients qui ne sont pas redevables de ce genre de technique, on va analyser de façon très précise le scanner, l'hétérogénéité, la présence des scissures en utilisant des logiciels dédiés, d'ailleurs, qui le font de façon automatique. Et les recommandations, c'est les valves en cas d'hétérogénéité et de scissure complète et pas de ventilation collatérale. Les spires, si la destruction n'est pas majeure et qu'il y ait une ventilation collatérale et que l'emphysème soit homogène ou hétérogène. L'ablation thermique peut être dans les cas où il y a beaucoup de destruction et dans un groupe très particulier de patients, la chirurgie dédiée de réduction de volume. Je voudrais partager avec vous juste ces messages. La chirurgie indiquée pour des patients présentant un emphysème hétérogène des lobes supérieurs. Les valves pour des patients très sélectionnés maintenant. Cette sélection augmente l'impact, mais en même temps augmente le risque de pneumothorax, parce que évidemment la rétraction est brutale. Les coils paraissent être une méthode relativement polyvalente, efficace mais irréversible. Et il est clair qu'il va falloir trouver de meilleurs critères de sélection pour avoir une réponse plus parfaite que celle que l'on a pour l'instant, surtout au regard du coût de cette technologie. Les données sur la vapeur sont encore un petit peu préliminaires, mais je pense que c'est relativement intéressant. Et puis cette dernière photo, surtout pour Ota, pour voir ce qu'est devenu l'hôpital Nord depuis qu'il a quitté Saint-Étienne. Merci de votre attention.
Merci d'avoir été dans les temps. On a largement le temps de prendre quelques questions. Je vais commencer par une première. Monsieur Vergniaud, y a-t-il un nombre standard de coils à mettre ou comment ajuster en péropératoire? Est-ce qu'on va... celui qui pose décider d'en mettre plus ou moins, est-ce qu'il y a des critères d'efficacité immédiate?
Alors dans les premières séries, le nombre de coils était relativement faible, jusqu'à 5-6. Actuellement, dans Revolin, c'était aux alentours de 10. Actuellement, on est plutôt sur 10-12 sur les lobes supérieurs. On peut aller à un peu plus, presque jusqu'à 15 sur les lobes inférieurs, parce que le nombre de segments est plus important. On a l'impression que si on en met plus, il n'y aura pas d'impact supplémentaire. Mais c'est de l'ordre de 10, de 10 à 15. Voilà.
Dans les cas où on utilise le vapeur, combien de séances il faut? Est-ce qu'une seule séance suffit pour avoir le résultat satisfaisant? Premièrement. Deuxièmement, le séjour du malade, combien de jours doit rester à l'hôpital? Et je pense que c'est une méthode qui n'est pas chère comme les autres, les valves qui sont très chères. Je pense que le vapeur n'est pas cher, donc c'est une méthode faisable à tout le monde. Et troisièmement, est-ce qu'on a un recul avec les vapeurs? Est-ce que les complications qu'on peut avoir après utiliser le vapeur?
Alors, pour répondre sur la vapeur, les données que nous avons sont des données d'une étude préliminaire et de cette étude qui vient d'être terminée et publiée en mars 2016. Donc on a très 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 peu de recul. Personnellement, et Hervé Mal comme moi, nous n'avons pas en France d'expérience de cette technique de vapeur, et les résultats donnés sont des résultats à 6 mois seulement. Donc on n'a pas beaucoup de recul. Pour les coils, on a des données jusqu'à 5 ans actuellement. Hein ? Donc pour la vapeur, on a très très peu de données, et j'aurais beaucoup de mal à répondre de façon précise à certaines de vos questions. Je peux déjà vous répondre sur le fait, je dirais que moi comme vous, je pensais que la vapeur d'eau c'était pas cher et que ça allait être une méthode pas chère. Malheureusement, c'est pas la logique du laboratoire qui fabrique ce système, car il a trouvé le moyen de faire un cathéter avec le ballon dédié pour protéger le lobe, vendu à un prix sans concurrence, et en fait pour l'ensemble de ces méthodes en dessous de 20 000 euros vous n'avez rien, quoi, pour dire les choses un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le cathéter est très très cher et ne correspond pas vraiment à son prix de fabrication, me semble-t-il. Voilà, mais je ne peux pas commenter plus, mais en tout cas ça sera malheureusement pas une méthode non onéreuse dans le temps. Je pense que la méthode, on fait un lobe ou une procédure seulement, et que s'il y a besoin de faire un deuxième côté, ça sera à un autre moment. En fait, la vapeur va déclencher une réaction inflammatoire pulmonaire, et cette réaction inflammatoire pulmonaire va progressivement scléroser le lobe ou le segment que l'on a traité. Donc il faut attendre cette efficacité-là pour éventuellement envisager de traiter un autre lobe.
Donc une seule séance peut être suffisante, hein?
Oui, éventuellement, si l'ensemble de la pathologie que l'on veut traiter est concentrée dans un seul secteur.
Merci.
Merci bien.
Merci.